desesperando. Pasaron muchos años, me hiciste tanto daño que me estoy olvidando.
Appel. Qui donc a étranglé la voix lasse de ma sœur de la brousse. Soudain, son invitation à l'action s'est perdue dans le flux des jours et des nuits. Elle ne m'arrive plus chaque matin, épuisée de sa longue marche, kilomètres et kilomètres avalés dans l'éternel cri « Makala ». Non, elle ne m'arrive plus, mouillée de la bruine, chargée d'enfants et de résignation, un enfant sur le dos, un autre dans le ventre, toujours et toujours, toujours. Io Mamane, qui donc a fusillé la voix héroïque de ma sœur de la brousse? Quelle cravache inconnue et cruelle l'a fouettée jusqu'à la mort? L'EVA de mon enclos est fleuri, mais il y a un mauvais présage dans ses fleurs violettes, dans son fort parfum barbare. Et le pagne de tendresse que le soleil a étendu sur la légère natte des pétales attend depuis l'été que le fils de ma sœur vienne s'y coucher. En vain, en vain. Et un oiseau chante, chante sur le roseau du jardin pour l'enfant de ma sœur lointaine, victime des matins brumeux de la brousse. Ah, je le sais. La dernière fois, il y avait un éclair d'adieu dans ses yeux doux, et sa voix était presque un rauque murmure désespéré et tragique. Ô Afrique, ma terre natale, dis-moi, qu'est donc devenue ma sœur de la brousse, qui jamais plus n'est descendu dans la ville avec ses enfants éternels, l'un sur le dos, un autre dans le ventre, avec son éternel cri de marchande de charbon. Ô Afrique, ma terre natale, au moins n'abandonne pas ma sœur héroïque. Tu dois la conserver dans tes bras glorieux.
Merci Marion de nous avoir lu ce très très beau poème. D'où vient-il?
Alors, je sais qu'il est d'une jeune Africaine, mais c'est tout ce que je sais. Et en fait, j'ai choisi deux poèmes de femmes. Et j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé de qui était ce poème. Sauf que c'est une femme.
Alors Marion Chalut, vous avez accepté de participer avec Edmé Crozet et Pierre Beauvon, tous trois comédiens et comédiennes, à cette soirée du 14 janvier. Comment vous avez été associée à la réalisation de cette soirée? Racontez-nous voir un peu comment une comédienne comme vous se trouve aujourd'hui aux côtés d'Amnesty International.
C'est un peu par hasard, parce que j'avais déjà travaillé des poèmes pour Amnesty et pour une soirée donnée à la Traverse en faveur d'Amnesty. Et puis de toute façon, j'ai toujours cru à la force des mots. Et c'est ma manière à moi d'être solidaire. Je pense qu'il y a mille manières et c'est ma manière d'être solidaire. Parce que un poème, c'est une émotion qui est prise en charge par un poète et qui nous la restitue avec la force des mots, avec leur pouvoir, leur témoignage. Alors, voilà, c'est ma manière de participer à ça. Je crois qu'Edmé pourrait dire la même chose, et Pierre aussi.
Parce que, bon, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a souvent des artistes qui s'engagent aux côtés d'associations ou pour des causes importantes dans le monde aujourd'hui. Mais, bon, c'est pas votre, entre guillemets, travail habituel. Hein. Donc ça, c'est un engagement spécifique. Vous avez suivi de près ou de loin le travail d'Amnesty jusqu'à aujourd'hui?
Non. Vous savez, si je le fais, c'est parce que j'ai rencontré Alba et que j'ai été très séduite par sa flamme et son courage.
C'est souvent comme ça, hein, oui. D'ailleurs. On est souvent entraîné par l'énergie de quelqu'un d'autre, puis ça en entraîne d'autres. Ça se passe souvent comme ça, Alba, vous avez l'impression, les gens... Quand vous disiez tout à l'heure, vous parliez d'ailleurs d'essayer de conscientiser les autres. Ça se passe souvent comme ça, c'est l'énergie de l'un ou de l'une qui entraîne les autres.
Moi, je crois qu'en chaque être humain, il y a des réservoirs d'énergie vraiment incalculables. Et que dans la mesure où il s'est produit un déclic, tout me paraît possible. C'est ma façon à moi de me dire que on doit pouvoir trouver des solutions à des choses qui sont de l'ordre de l'inacceptable. Et moi, je crois profondément que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens peuvent contribuer. Et le font. Et le font. Et Marion, c'en est une. Et elle est modeste parce que, en réalité, elle ne m'a pas attendue pour être solidaire. Ça, c'est pas tout à fait vrai. Mais en tout cas, moi, je me considère comme ayant eu beaucoup de chance de la rencontrer, et elle et d'autres.
Alors, cette soirée réunit beaucoup de gens qui participeront tous, il faut le préciser à nos auditrices, bénévolement à cette soirée, bien évidemment, puisque le but est de réunir le plus d'argent pour Amnesty. On peut donc le comprendre. Alors, le programme de la soirée, je lis le petit programme hein, et vous nous faites les commentaires, Alba. C'est la Missa Criolla, que beaucoup d'entre nous connaissent, et Navidad Nuestra, extrait de Ariel Ramirez, chant et musique d'Amérique du Sud, avec le chœur de Pontvert de Confignon, le chœur du Collège Sismondi de Genève, avec à sa tête Marie-Isabelle Pernoum et l'ensemble instrumental Alenta dont on parlait tout à l'heure. Et alors, c'est là, Marion, que peut-être vous pouvez nous expliquer, avec des textes choisis et lus par les trois comédiens dont on parlait tout à l'heure, vous-même, Edmé Creuset et Pierre Bevon. Alors, est-ce que les textes sont liés à la musique ou vous avez constitué une part à vous de textes choisis ?
Non, on a fait un montage et puis après, on a vu les musiciens et on leur a soumis ce montage en leur disant, là, on verrait bien... un moment de musique, un prolongement, une respiration, et ça s'est très, très bien passé. Comme quoi, quand on a quelque chose à faire ensemble, et que c'est fort, et que c'est profond, et qu'il y a un élan, eh bien, tout s'aplanit dans le fond.
On trouve le chemin des collaborations facilement. Les textes que vous avez choisis entre les trois comédiens et comédiennes, tout à l'heure vous dites, je ne sais pas très bien d'où il vient, mais vous avez quand même cheminé dans des endroits, j'imagine, particuliers.
Nous avons puisé surtout dans deux anthologies qui ont été éditées par la section française d'Amnesty International. Il s'agit de 100 poèmes pour la paix, 100 poèmes pour la liberté. Nous avons pris aussi des poèmes chez des poètes albanais, des poètes serbes, et surtout dans l'anthologie du chantre de la Turquie, Nazım Hikmet, que j'admire infiniment. Il faut savoir que Nazım Hikmet, qui est un poète du XXe siècle, il est mort en 1963 à Paris, a passé les plus belles années de sa vie en prison, et que c'est là qu'il a écrit son œuvre poétique. Et ce qu'il y a de tout à fait extraordinaire dans cette œuvre, c'est que cet homme enfermé a chanté l'espoir, a chanté sa foi dans les hommes, son amour, sa tendresse, d'une façon tout à fait extraordinaire et exemplaire. Pour moi, c'est le type même du poète engagé.
Qui continue à donner l'espoir en plus, puisque étant enfermé, c'est là qu'il a écrit ces très belles choses.
Oui. Mm-hmm.
Il y a des textes que vous avez choisis dans les différentes anthologies dont vous parliez, Marion, qui sont écrits par des gens qui, aujourd'hui, sont en prison et qui arrivent d'une façon ou d'une autre à les faire sortir. C'est des choses qui se passent. Il me semble que j'ai entendu parler de temps à autre de ce genre d'écrits-là.
Je ne comprends pas très bien la question.
De gens qui, aujourd'hui, sont encore emprisonnés, comme le poète turc dont vous venez de parler, et qui arrivent à faire sortir, on ne sait pas très bien comment, peut-être par le biais d'Amnesty, des textes qu'ils écrivent et qu'on connaît aujourd'hui.
Ah ça, je n'en sais rien du tout.
Alba, vous savez...
Alors, c'est vrai que Amnesty, quand elle peut, donne la parole aux victimes, et qu'il y a des poèmes ou des textes qui sont sortis clandestinement de prison et que Amnesty ou d'autres d'ailleurs ont publié. Je pense que être en prison, c'est être caché. C'est important de donner des espaces de parole lorsque l'on peut. Il faut que nous, on se considère comme la parole de ceux qui ne peuvent pas parler, mais dans la mesure où ils peuvent parler,
Il faut que ça soit eux qui le font. Un poème peut être un message, une parole très forte et très importante, comme tu le disais. Mm-hmm.
Les élèves du chœur du Collège Susmondi, comment ont-ils été associés à cette soirée? C'est chouette que des jeunes aussi participent à une aventure comme celle-là.
C'est tout à fait important que des jeunes participent. Alors, le chœur de Pontvert a collaboré avec le groupe Olantai pour d'autres concerts. Et ils ont été d'accord lorsque le groupe Olantai leur a demandé de s'associer pour le concert pour Amnesty. Et nous sommes très heureux qu'ils se soient associés parce que une chose peut-être qu'il faut dire du concert, c'est que ce n'est pas un concert triste, c'est un concert d'espoir et d'espérance. Et que tout en parlant de choses tristes et tragiques comme les disparitions et les assassinats politiques, ce que l'on veut, c'est que l'espérance soit la plateforme dans laquelle on va bâtir quelque chose de plus juste, de plus acceptable.
Et pourquoi vous nous dites ça en parlant des jeunes? Parce que vous espérez que les jeunes seront l'énergie de demain pour continuer la lutte qui...
Oui, je pense honnêtement que les jeunes, ils ont le futur devant eux. Mais moi, je pense que les autres sont également. Ils mm-hmm. peuvent également être des porteurs d'espérance. Moi, je ne suis pas jeune. L'espérance, ça me... Je la sens, je désire.
Mais c'est important d'avoir la relève quand même, non?
Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent aujourd'hui, par exemple à Genève? Parlons spécifiquement de Genève, ce serait intéressant de savoir s'il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent dans des actions comme celle d'Amnesty International.
Écoutez, moi je ne sais pas s'ils sont beaucoup, je sais qu'il y en a. Et que c'est formidable. Moi, je crois que beaucoup de choses que j'entends par rapport à jeunes, personnellement, ce n'est pas mon expérience. Moi, j'ai beaucoup de jeunes qui viennent aider pour toutes sortes de choses, des jeunes qui s'engagent, d'autres s'engagent dans d'autres... Il y a plein de groupes de jeunes. Mais ils vivent aussi dans un monde qui n'est pas... est très frustrant pour eux et peut-être parfois c'est difficile de voir un peu de lumière dans la grisaille.
C'est vrai que parfois on a l'impression que les jeunes d'aujourd'hui, entre, je ne sais pas moi, 16 et 25 ans, ils ont, entre guillemets, moins d'idéaux que peut-être on en avait dans les années 68-75. Mais bon, peut-être que la situation est plus dure pour eux.
Oui, je ne sais pas si en 68 la situation était moins dure pour ceux qui ont vécu 68, mais c'est vrai que c'était une immense espérance qui par la suite n'a pas tout à fait réussi. Malgré tout, je trouve moi qu'il y a quand même un après 68, une avant 68 et ils ne sont pas pareils. Et en ce sens, je trouve que c'est bien et que les jeunes de maintenant ont peut-être d'autres... sur certains plans, peut-être qu'ils sont plus réalistes. Je ne les sais pas, mais moi, je crois qu'on peut compter sur eux, je crois.
Marion Chalut, vous travaillez aussi avec des jeunes, non? Vous êtes en contact, entre autres, par le biais du théâtre avec des jeunes. Vous avez l'impression qu'ils ont un peu cette volonté, ils sentent cette force du mot pour dire certaines choses, comme vous en parliez tout à l'heure?
J'essaie de leur donner envie de ça. J'ai des élèves de entre 15 et 19 ans, j'enseigne à l'école de culture générale, et j'ai quand même fait l'expérience de chaque semaine de leur lire un poème. Et en fait, quand j'oublie de lire le poème, ils me le réclament. Alors je pense que ça doit quelque part les atteindre. Et peut-être qu'avec ces cris, ils en feront quelque chose de personnel. Enfin, c'est ce que j'espère en tout cas.
Et puis, alors, il y a un dernier... Non, je crois qu'on a évoqué tout le monde. Alors, voilà, le chœur de Pontvert, c'est des jeunes aussi, ça vous disiez, Alba Vioto? C'est aussi des jeunes?
Des adultes, oui. Mm-hmm.
Alors, oui, on a parlé de tout le monde. Là, je crois qu'on a réuni tout un chacun. Alors, je vois que les gens pouvaient réserver leurs billets à l'avance. Est-ce qu'il y a encore des places? J'imagine, la cathédrale est grande, non?
Il y a encore des places et les gens peuvent acheter les billets à l'entrée sans problème.
Voilà. Alors, rappelons peut-être le prix, parce qu'il faut que les gens arrivent avec leur bourse bien remplie. Ils savent qu'ils viennent à une action de soutien. Le prix du concert est de 50 francs. Pour les personnes qui profitent de l'AVS, apprentis, étudiants, c'est 25 francs. Et le concert, c'est le vendredi 14 janvier à 20h à la cathédrale Saint-Pierre à Genève. Et voilà, peut-être.
Et ouverture des portes à 7h15. Pour les
7h15. Oh là là, venez réserver vos places. Il fait froid, la cathédrale, habillez-vous bien. Et puis. Donc, tout ce magnifique concert à l'intention de, au bénéfice d'Amnesty International dans leur campagne Sortons-les de l'ombre en parlant des disparitions, assassinats politiques dans le monde aujourd'hui. Alors, Alba, vous disiez tout à l'heure s'il y avait des auditrices ou des auditeurs qui avaient envie de s'engager avec vous d'une autre façon que financièrement, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent ?
Eh bien, il faut qu'ils téléphonent à la permanence des groupes de Genève. À Genève, donc, c'est le 735-85-00.
Il faut peut-être leur dire plus lentement.
735-85-00. La permanence est ouverte chaque après-midi. Les personnes peuvent également venir. Maintenant, s'il y a des auditrices et des auditeurs qui n'habitent pas Genève, il faut qu'ils sachent qu'il y a des groupes d'Amnesty pratiquement dans beaucoup de localités. En Suisse, il y a 88 groupes en Suisse. Il y en a à Ferney-Voltaire, des groupes d'Amnesty. Il y en a, en fait, c'est un mouvement très capillaire. Donc, à proximité, on trouve un groupe d'Amnesty.
Voilà, alors si, auditrices ou auditeurs, vous entendez cela et que vous n'êtes pas à Genève, mais téléphonez peut-être quand même au numéro qu'on vous a donné tout à l'heure, puis on vous donnera un autre contact ensuite. C'est ça ?
C'est ça.
Marion, vous nous liriez encore un texte pour finir notre conversation. Alors, je vous propose un accompagnement au hautbois. Et c'est une compositrice grecque qui s'appelle Hélène Karindrou qui a composé cette musique.
On tue. D'un bout de la terre à l'autre, on tue. On tue sur la mer. La nuit, on peut voir, dans l'indifférente solitude de l'eau, des cadavres qui ont encore leurs dernières larmes à leur face de linge tournée vers le ciel noir. On tue aux courbes fleuries des fleuves. On tue aux flancs chauds des montagnes. On tue dans les villes où le tocsin qui sonne crie la douleur des dômes saignants et des cathédrales éclatées. Là, depuis des siècles on a travaillé. Mais la terre est soudain devenue une éponge monstrueuse, buvant la longue patience des hommes. Partout la peur, la nuit, la mort. Pourtant, le soleil est là. Je l'ai vu ce matin. Jeune, fort, exigeant. Il ruisselait sur les toits. Il mordait au cœur les arbres. Il empoignait la ville aux épaules et réclamait de la terre son réveil. Il est là. Il est au fond de toute chose. Et devant ce monde qui s'entr'ouvre, s'affaisse et se replie, il y a la mystérieuse et incroyable énergie qui refuse les ténèbres et ne veut pas qu'on tue la vie.
Merci Marion Chalut. Ce poème, il venait de quelque part de particulier,
oui,
celui-là ?
Il est de Arlette Humbert-Laroche, qui qui est une déportée de Bergen-Belsen et qui est morte à 26 ans.
Alors, je rappelle en conclusion, uniquement parce que après c'est un beau mot et cette belle musique, on n'a pas envie de dire autre chose. Vendredi 14 janvier, 20h, cathédrale Saint-Pierre, concert au bénéfice d'Amnesty International. Merci à toutes les deux, Alda Fiotto et Marion Chalut, d'être venues jusqu'ici.
Merci.
Au revoir.
Bonsoir.
Alors voilà, la musique que vous entendez, c'est le groupe Allentai que vous pourrez aussi entendre lors de ce concert d'Amnesty. Mais maintenant, nous faisons une petite digression par le biais de la voix des femmes pour terminer notre émission et c'est Barbara.
Je ne sais pas dire je t'aime, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne peux pas dire je t'aime, je ne peux pas, je ne peux pas. Je l'ai dit tant de fois pour rire, on ne rit pas de ces mots-là. Aujourd'hui que je veux le dire, je n'ose pas, je n'ose pas. Alors j'ai fait cette musique qui mieux que moi te le dira. Je sais tes yeux, ton rire, ta voix. Je sais le feu quand tu me touches. Et je sais le bruit de ton pas. Je saurai sur moi des vêtus entre mille. Quelle est ta main nue? Mais simplement dire je t'aime. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est trop bête, je vais le dire. C'est rien, c'est de petits mots-là. Et j'ai peur de te voir sourire. Surtout ne me regarde pas. Tiens. Au piano, je le dirai du des doigts. Au piano, je pourrais le dire. Écoute-moi, regarde-moi. Je ne peux pas. Je ne sais pas. No. je te téléphone près du métro Rome. Paris sous la pluie me lance, mais m'ennuie. La Seine est plus grise que la Tamise. Ce ciel de brouillard me fout le cafard. Paris pleut toujours sur le Luxembourg. Il y a d'autres jardins pour parler d'amour. Il y a la tour de Pise, mais je préfère Venise. Viens, fais tes bagages, on part en voyage. Je te donne rendez-vous à la gare de Lyon. Sous la grande horloge, tu sais, près du Portillon. Nous prendrons le train pour Capri la Belle, pour Capri la Belle avant la saison. Viens voir l'Italie comme dans les chansons. Viens voir les fontaines, viens voir les pigeons. Viens me dire je t'aime comme tous ceux qui s'aiment à Capri la Belle en toute saison. Paris, mon Paris, au revoir et merci. Si on téléphone, j'y suis pour personne. Je vais dorer ma peau dans les pays chauds. Je vais m'ensoleiller près des gondoliers. Juste à l'aube grise, demain c'est Venise. Chante barcarolle, j'irai en gondole. J'irai sans sourire au pont des soupirs pour parler d'amour à voix de velours. Taxi, menez-moi à la gare de Lyon. J'ai un rendez-vous près du Portillon. Je vais prendre le train pour Capri la Belle, pour Capri la Belle avant la saison. Passant par Vérone, derrière les créneaux, je vais voir le fantôme du beau Roméo. Et je vais dire je t'aime à celui que j'aime. Ce sera l'Italie comme dans les chansons. Taxi vite ballon à la gare de Lyon. Plus sur Nantes, donne-moi la main, le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin.
Avant que notre émission se termine, et Barbara me pardonnera de l'interrompre, je vous la lui redonne la musique et la voix tout de suite. J'aimerais vous rappeler quelques données à propos de Femmes en Noir. Vous vous souvenez, nous avons reçu deux femmes qui étaient allées en une ex-Yougoslavie et qui nous ont rapporté de nombreux témoignages avec des femmes qu'elles avaient rencontrées, les Femmes en Noir de Genève, et entre autres, elles étaient allées là-bas pour se voir confirmer le soutien à un projet que les Femmes en Noir de Genève et les femmes qui se sont associées à ces Femmes en Noir, justement en constituant une association, projet qu'elles avaient envie de soutenir en Bosnie. Et c'est le centre thérapeutique pour femmes victimes de violences à Zenica. Le centre s'appelle Medica Zenica. Alors, je vous donne rapidement lecture du texte qu'elles ont écrit dans le journal du Comité Paix Genève en ce mois de décembre, qui nous donne encore rapidement quelques informations sur ce centre. Alors, la petite ville de Zenica est située au nord-ouest de Sarajevo. C'est une zone contrôlée par l'armée bosniaque. Elle a accueilli depuis le début de la guerre quelques 120 000 réfugiés. Et les conditions de vie sont extrêmement difficiles. La situation militaire laisse craindre le pire. Alors, le centre thérapeutique pour filles et fillettes s'est ouvert en avril 1993 sous l'impulsion de la doctoresse autrichienne Monika Hauser. Le centre est sous la responsabilité de l'association Medica Zenica et est établi dans une maison qui comprend un étage pour des soins et des thérapies et un deuxième pour la prise en charge médico-psychologique. Il emploie 22 spécialistes femmes, qu'elles soient médecins, psychologues, infirmières, gynécologues, anesthésistes, jardinières d'enfants, théologiennes ou personnel administratif et veilleuse de nuit. Et toutes collaborent étroitement avec l'hôpital régional et elles sont soutenues par les autorités locales. Il y a trois types d'actions. Le traitement ambulatoire dans les camps de réfugiés, prise de contact et établissement de rapports de confiance avec les femmes dans ces camps de réfugiés. Le traitement ambulatoire gynécologique, on fait des diagnostics et thérapies en faveur des victimes de viol. Et le centre est aussi un lieu de traitement médico-psychologique qui permet à une vingtaine de femmes à l'heure actuelle et à leurs enfants de bénéficier d'un environnement non violent et matériellement sûr. Un deuxième centre a été ouvert en juillet 1993 afin d'assurer une prise en charge à plus long terme et permettre la resocialisation des femmes traumatisées par la guerre, d'éviter les abus des femmes et à leurs enfants à des fins politiques, juridiques et autres. Enfin, en août de cette année, un centre idotique s'est ouvert dans la ville de Vysiko, qui se trouve à mi-chemin entre Zenica et Sarajevo. Alors, le centre est soutenu par de nombreux groupes de femmes en Europe occidentale, par exemple en Allemagne. Et donc, l'association Femmes en Noir de Genève va être régulièrement informée par la coordination qui se trouve en Allemagne sur la vie du centre. Et donc, c'est ce projet-là qu'elle a décidé de soutenir. Alors, vous pouvez envoyer vos soutiens sous forme de versement, par exemple 100 francs comme membre de soutien ou 25 francs minimum, à l'association Femmes en Noir, 1227 Carouge, CCP 12-25-272-3. Je répète, CCP 12-25-272-3. Et chaque premier jeudi du mois, le prochain c'est le 3 février,